au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Est-ce que vous achèteriez une propriété dans laquelle il y a eu une tragédie?
Ben le drame a eu lieu ici. Ça.
Ou exemple, une maison qui a appartenu à Maurice Momboucher.
Dès le 4 octobre.
Regarde ça.
C'est quelque chose.
Ça frappe l'imaginaire.
Mélanie Bergeron et Yannick Parent vous donnent accès à un univers mystérieux.
On vous montre à quel point un drame peut vraiment influencer l'aspect immobilier d'une propriété.
Prêt pour la visite? Résidence maudite, dès le 4 octobre, à Casa.
Mélanie Bergeron, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Mélanie et Jeffrey Soubrani vous attendent pour leur émission consacrée à l'immobilier, midi après les nouvelles de 11 heures. Y a-t-il effectivement... Et là, je m'adresse autant à la journaliste que vous étiez et qu'à l'agent immobilier. Y a-t-il vraiment de ces résidences qu'on peut dire maudites?
Ça dépend de la perception. Mais oui, il y a des résidences qui sont étiquetées comme maudites. Quand il y a un drame terrible qui survient dans une maison, vous savez qu'il faut le déclarer à la vente. Hein? Et puis ça freine beaucoup d'acheteurs. Donc, Paul, je sais que vous êtes très rationnel. Des fois, les gens n'ont pas à croire nécessairement aux énergies par la suite d'une maison, tout ça. Il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui, eux, achètent quand même ces maisons-là, qui disent, ben c'est pas la maison le problème. Ce sont des gens qui ont vécu des histoires dans ces maisons-là. Mais moi, je me réapproprie les lieux et on va vraiment voir le côté immobilier de ça. Puis c'est un côté caché, hein, parce qu'on vous parle, là, toutes sortes d'aspects de l'immobilier. Mais ça, c'est du jamais vu à la télé. On va explorer ces côtés-là, rencontrer des acheteurs, des vendeurs, puis c'est quoi l'impact sur le prix de la maison et sur le processus de vente aussi.
Mais donne-moi un exemple, par exemple, d'une maison maudite, entre guillemets, là, parce évidemment, le titre est plus, ratisse plus large, mais de cette série à Casa que vous avez fait, qu'on va voir à partir du 4 octobre. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des gens qui ont il y a des maisons, là, par exemple, qui ont appartenu à des gens dans lesquels il y a eu des événements violents. Oui. Donne-moi un exemple, par exemple, de maison que vous avez visitée.
Par exemple, l'ancienne propriété d'Hugo Fredette. Ça a fait le tour des médias. C'est très délicat. Ça a été très difficile pour les familles impliquées dans ce drame-là épouvantable. Et on s'est posé la question, en fait, on ne visait pas que cette maison-là, mais on a pris toutes les histoires, en fait, qu'on jugeait dramatique, puis on s'est questionné qui habite là aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été vendue, la maison? Et quand on s'est rendu compte que la maison avait été vendue, bien évidemment, ça a un côté intriguant de savoir qui a acheté, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'ils font avec cette maison-là. Alors, on est allé rencontrer les acheteurs de cette propriété-là, qui sont des perles. Je ne sais pas s'ils nous écoutent ce matin, mais des gens qui nous ont généreusement ouvert la porte. Et c'est fait dans le respect. Faut pas penser que c'est une série de documentaires, pour commencer. Oui, il y a un côté dramatique parce qu'il y a les événements qui se sont passés, mais on y va dans le respect des gens, des familles, puis on fait le tour de ces maisons-là, puis de voir qu'est-ce qui a convaincu ces gens-là d'acheter cette propriété-là. Donc ça, c'est une des maisons. On est allé aussi une histoire qu'on ne savait pas au début, puis je me posais la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Puis toute l'équipe y a pensé, puis c'est une super équipe en passant. Tout le monde a le sens vraiment du doigté, l'intelligence aussi de pas d'essayer de justement, on ramène des événements tristes pour beaucoup de gens. Ouais. Et là, on s'est rendu, le terrain où a eu lieu l'écrasement d'avion de la famille Lapierre a été vendu au mois de mars dernier. Moi, je travaille aux Îles-de-la-Madeleine aussi.
Ben oui, vous connaissez bien le
territoire.
Oui,
et c'est presque à côté de chez nous. Mm. Et quand j'ai vu ça, qu'il avait été vendu, je me suis posé la question, mais qui a acheté ce terrain-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'était devenu un endroit tristement touristique. Il y avait des gens qui allaient toutes les semaines voir ce qui se passait. Moi, j'étais jamais allée. Je me gardais une petite gêne. Mais on a accompagné les acheteurs de ce terrain-là qui y allaient pour la première fois. Et vont faire quelque chose de beau, je peux vous le dire. Donc, il y a un côté vraiment lumineux aussi qui ressort de cette émission-là, après un passé dramatique, finalement.
Avec une histoire, disons, tragique.
Oui.
Est-ce que, parlons quand même chiffres, parce qu'on parle toujours de chiffres en immobilier, c'est ça, c'est offre, demande et tout ça. Quel est l'effet sur le prix de vente ou de revente d'une maison, d'un terrain où, dans le passé, a eu lieu un événement tragique?
Il y a un impact important parce que même les institutions financières vont hésiter à financer une propriété comme ça. Exemple, quand il y a un homicide dans une maison, la banque évalue toujours les risques en accordant un prêt et ça fait partie des risques. Donc, ça peut dévaluer la propriété, par exemple, de 10 ou 20 %. Donc, dans un marché comme aujourd'hui, c'est moins drastique. Parce qu'il y a des maisons qui se vendent quand même, les gens n'ont pas de maison. Mais il y a une certaine dévaluation par rapport au prix de la propriété qu'elle aurait été vendue normalement. Mais le terrain où a eu lieu l'écrasement s'est vendu en offre multiple.
Donc, c'est pas... Écoutez, je pèse mes mots, là, parce que il y a évidemment pour des familles, des proches, une souffrance encore présente
oui.
associée aux événements. Mais c'est pas une aubaine, nécessairement.
Non. Non.
Nécessairement.
Exact. Il y a une autre histoire, une personne aussi, entre autres, toutes les personnes qu'on a rencontrées sont exceptionnelles par leur générosité. On est allé chez Alain Dallaire, je le salue s'il nous écoute d'ailleurs. Alain Dallaire a perdu sa femme et sa fille à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, ça fait même pas un an. Cet homme-là, on l'a abordé, on lui a parlé, ça a connecté tout de suite. Et il a accepté de nous parler parce qu'il voulait vendre sa propriété, justement. Sa famille l'avait acheté. Ils n'ont pas pu passer au financement à cause des événements. Donc, c'est un parcours du combattant. Il nous a confié le mandat de vendre cette maison-là avec les événements à l'intérieur. Donc, oui, on parle à ces gens-là, mais on va vraiment voir c'est quoi l'impact sur l'immobilier avec des histoires humaines exceptionnelles puis des gens qui vivent des drames. C'est le côté humain que les gens ne voient pas parfois dans notre travail de courtier immobilier. On accompagne les gens dans des séparations, des successions, des décès. Mais là, ça, cet aspect-là de l'immobilier, ça arrive des fois. Un suicide dans une propriété, on fait quoi? Comment on le déclare? Est-ce qu'il faut raconter ce qui s'est passé ou on se garde une petite gêne?
En fait, c'est une obligation quand même, par la loi.
Oui.
Il faut le dire.
Mort violente, suicide,
voilà.
Il faut le dire.
Faut le mentionner.
Oui.
Mais là, est-ce qu'il y a des détails? C'est sûr, parce qu'à un moment donné, t'achètes une maison, t'achètes la maison, par exemple, qui appartenait à un criminel.
Mme Boucher.
Bon, je sais que vous êtes allé, dans son ancienne maison. Et là, tu sais pas, tu te demandes, est-ce qu'il y a un danger relié à cette maison-là? Est-ce qu'il y a des affaires que je pourrais trouver? Il y a plein de questions que tu te poses avant d'acheter, puis ça se peut que tu te dises, moi, j'ai pas envie d'acheter ça pour toutes sortes de raisons.
Effectivement.
Ou bien, au contraire, ça m'en fout. Puis, alors, donc, c'est le type de questions que les gens doivent se poser. Est-ce que vous avez eu des refus très, très nets, par exemple, parmi les...
Bien, c'est sûr. Quand on s'appelle résidence maudite au départ, là, même nous, Yannick et moi, tu sais, aujourd'hui, je suis plus journaliste, tu sais, on vend des propriétés, on travaille dans l'immobilier, donc s'associer à un titre comme ça, il y a pensé beaucoup, mais on travaille avec une équipe extraordinaire de production, des gens intelligents aussi qui voient bien que, tu sais, il ne faut pas mettre en péril non plus ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et il faut y aller avec respect pour les gens. Mais c'est clair que une première saison d'une émission comme ça, c'est toujours plus difficile et il faut défricher le terrain, comme on dit. Là, je ne sais pas si éventuellement il y aura une suite à ça. Par contre, oui, il y a eu des refus. Parce que quand on aborde les gens et qu'on dit que l'émission s'appelle Résidence maudite, il y a des gens qui ne veulent pas être associés à ça, même si nous, on fait notre travail du mieux qu'on peut. C'est arrivé, mais on a eu des belles acceptations. On trouve ça incroyable. Il y a des propriétés où on se dit, voyons, on a réussi à aller là. On est allé justement chez une des maisons de Mme Boucher. On est allé à Trois-Rivières, une ancienne propriété d'Alain Piché, qui avait tué ses parents et qui lui-même a hérité de la maison parce qu'il était non criminellement responsable pour troubles mentaux. C'est lui qui vendait la maison, là.
Incroyable.
Alors, tu sais, ça, c'est un autre aspect particulier. Puis la dame qui vit là aujourd'hui, elle est lumineuse, elle sourit. Elle dit, moi, c'était cette maison-là que je voulais. Elle l'a vu à télé, puis elle dit, moi, je vais habiter là.
Donc, il n'y avait pas de... J'ai une question pour toi.
Oui.
Tu as fait cette émission-là. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a une maison maudite où tu n'irais pas vivre, toi?
Ouais.
C'est une bonne question.
Une mauvaise impression lors du tournage.
Lors du tournage, pas nécessairement, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les gens, puis, mais c'est clair que moi, là, tu sais, Paul, je sais que vous êtes très rationnel, puis ça change rien qu'il y a eu quelque chose dans la maison, puis tout ça. Moi, j'ai une petite gêne par rapport à certaines histoires où c'est moi qui aurais de la misère à arrêter de penser à ce qui s'est passé à l'intérieur.
Ah.
C'est plus ça, tu sais, il y a des gens qui vont reculer parce qu'ils sont pas capables de se dire, ben, t'sais, ils vont toujours penser à l'histoire.
T'es pas capable d'assumer cette histoire. T'es pas capable de c'est une histoire qui t'abandonne pas, qui te quitte pas, donc tu peux pas...
l'intégrer dans ta nouvelle vie propriétaire.
Exactement. Ouais, exactement.
Voilà. Il faut que tu fasses abstraction, très certainement. Il
faut s'approprier les lieux, il faut les redécorer, il faut rénover.
Aux États-Unis, il y a des résidences célèbres et on se bousculait pratiquement, j'exagère à peine, il y a des gens qui recherchent...
Ah ben oui.
...volontairement... ce genre de résidence. Pas seulement pour essayer de l'avoir à bon prix, mais pour d'autres raisons.
Est-ce que vous saviez que l'immeuble où habitait Luca Rocco Magnotta reçoit des visites constantes de gens qui sont prêts à payer des centaines de dollars pour avoir un passe-droit et visiter l'appartement?
Juste visiter.
Aller voir, pas vivre l'expérience, évidemment.
Je savais pas ça.
Mais oui,
non, mais je veux dire, pas l'acheter.
Je ne pensais pas que... Parce que c'est un peu morbide, là, mais je pensais pas que ça...
C'est un immeuble en location et on est allé sur place. Le propriétaire n'a pas voulu nous parler parce que lui, il vit un enfer. Là. Depuis, c'est une victime collatérale de l'histoire Luca Rocco Magnotta parce que quand on est propriétaire d'un immeuble de 59 logements et qu'il n'y a plus personne qui veut habiter dedans... Ben là, c'est sûr que les revenus, puis tout ça, puis là, c'est devenu une attraction touristique. Des gens qui aiment le gore, comme on dit, il y a un tourisme pour ça.
Certainement.
Triste.
Alors, s'il y a un tourisme, il y a certainement un marché d'acheteurs. Et aux États-Unis, on l'a vu, dans des résidences où des crimes crapuleux, épouvantables ont été commis, ben il y avait des gens pour acheter cette résidence-là à un gros prix, à cause de l'histoire.
Effectivement. Effectivement, puis vous pensez peut-être à... Bon, il y a des histoires plus connues que d'autres, mais ici, j'ai pas vu ça dans nos histoires.
On a un peu de temps. Oui, parce que l'affaire Manson, je m'y intéresse depuis très longtemps. Là, vous connaissez la famille Manson.
L'une des résidences les plus maudites.
Il y a eu deux résidences visitées en 24 heures, dont celle de Sharon Tate, actrice très connue, et puis Abigail Folger, qui était l'héritière des fameux cafés Folger. Bon, 5 personnes assassinées dans des circonstances effroyables à Los Angeles. Le lendemain soir, un couple qui était propriétaire d'une chaîne d'épicerie assassiné dans les mêmes conditions. Ben, il y a eu des acheteurs immédiatement qui voulaient acheter la maison du 10 066 Cielo Drive.
C'est incroyable.
Oui, dont un chanteur du groupe Nine Inch Nails, Reznor. Je pense que c'est Trent Reznor. En tout cas, il achète la maison. Et il décide d'installer un studio, supposément parce qu'il se sent inspiré par les lieux, et il commence à réaliser des enregistrements et tout ça. La sœur survivante de Sharon Tate, qui est la dernière d'ailleurs encore vivante, Deborah Tate, est allée le confronter. Puis elle a dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu voulais aller t'installer un studio là, dans le même appartement de la maison où ma sœur a été assassinée dans des circonstances exceptionnel, effroyable. Et il a soudainement, d'un coup, pris conscience de ce qu'il faisait et il a décidé, évidemment, de quitter l'île.
Est-ce que vous saviez que la maison de Paul Bernardo a été démolie?
Non.
Ben, vous allez l'apprendre. Ben là, je vous l'apprends ce matin, mais effectivement...
Il y a eu des maisons qui ont été rasées, dont la maison où les crimes Manson ont été commis dans Charlottetown. La maison a été rasée.
Oui.
Il y a une collègue ici, Sabrina, qui nous rappelle que les maisons du Temple solaire à Moroni.
Oui, effectivement.
Ah oui, oui, oui.
Oui. Oui. Il y a beaucoup de résidences non explorées, là, où on aurait pu aller parfois, où on n'a pas pu y aller. On espère qu'éventuellement, peut-être qu'il y aura une deuxième saison. Mais c'est vraiment... Un côté, là, vous allez voir toutes sortes de choses, toutes sortes d'aspects, puis des histoires un peu plus, comment dire, exemple, là, je pense à ces gens qui habitent un parc de maisons mobiles en Estrie, dont le voisin est une entreprise qui a acheté le terrain. Le terrain était loué et les exproprient tout le monde. La ville a diminué la valeur de leur évaluation de façon drastique et on leur dit, bon, on vous donne... Un petit montant, allez-vous-en avec votre maison sur le dos. Ces gens-là n'ont jamais réussi à retrouver son prix avec ça. Il y a un homme dont le fils s'est suicidé en apprenant la nouvelle parce que c'était son avenir, cet endroit-là. Il y a toutes sortes d'histoires. On ratisse assez large. Et pour ceux qui pensent qu'on va voir des maisons hantées, c'est pas le thème de l'émission. Il y en a une où les gens prétendent qu'ils vivent des phénomènes paranormaux, mais ça fait partie d'un des aspects de l'immobilier parce qu'il y en a des croyances, des gens qui vont purifier leur résidence avec de la sauge. Tu sais, on explore ces croyances-là. On ne dit pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais on les explore, puis ce sera aux gens d'interpréter à leur manière.
De se faire leur propre idée. Oui. Mais il reste qu'on entend souvent ça, puis on entend de plus en plus des maisons où... Tu sais, tu rentres dans une maison, il y a comme une énergie dans une maison.
C'est vrai.
Ouais, souvent, les gens disent ça.
On raconte ça souvent, tu sais. On entend ça souvent.
Oui.
C'est comme quand est apparu le terme feng shui.
Oui.
Il était important d'avoir une orientation avec le feng shui. Mais il y a des gens qui, effectivement, parlent d'un rayonnement de la maison.
T'es pas très feng shui, toi. Hein?
Non, pas non. tellement. Mais je suis pas de genre morbide à dire je me précipiterais pour aller acheter.
Non, non,
jamais.
Mais vous savez, avec le marché actuel...
Sauf que je dis, si on me le dit pas, je le saurais pas.
Mais faut le dire.
Mais je sais, c'est ça le problème.
Puis le marché actuel fait en sorte qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ces maisons-là, pas parce qu'ils sont morbides, mais vraiment, vous allez voir, là...
Si je viens te voir, par exemple, comme courtier, puis je te dis, écoute, je suis intéressé à une maison, je veux pas savoir ce qu'il y a eu dedans.
Non, on peut pas.
On peut pas.
Non, non, c'est une responsabilité. C'est la loi. C'est écrit dans la déclaration
du
vendeur.
Vous devez dire en tant qu'agent, vous devez dire à Thérèse, bien, Madame Parisien, je sais que vous ne voulez pas le savoir.
Mais je vous le dis pareil.
Mais il est arrivé tel drame.
Oui, parce que vous devez signer l'accusé réception comme quoi vous avez été informé de ça. Et si ce n'est pas écrit dans la déclaration du vendeur et que vous l'apprenez par vos voisins, vous pourriez revenir contre l'ancien propriétaire. Donc, c'est très important. Et quand les gens se demandent est-ce qu'on doit déclarer cette chose ou non, oui, on le déclare. Puis c'est important parce que c'est la loi.
Alors, la série débute à Casa.
Oui, le 4 octobre.
Oui.
Et là, évidemment...
Résidence.
Il y en a encore une dizaine d'épisodes.
10 épisodes. C'est produit par Taiga Media, une idée originale de Karina Marceau et évidemment Yannick Parent, qui est mon mari et partenaire dans la vie. Bon, on a fait cette émission-là ensemble parce que lui était policier dans son ancienne vie.
Il a visité des sites.
Ben c'est ça, mais il n'est jamais allé dans ces circonstances-là, tu sais. Alors, moi, journaliste, lui, policier, courtier immobilier aujourd'hui. En tout cas, on avait le profil pour...
Mettons que c'était pas mal le profil parfait.
Alors, Mélanie Bergeron, revenez à la fin de l'émission avec Jeffrey pour nous présenter le thème, ou enfin les thèmes abordés d'aujourd'hui.
Oui.
Dans un instant, Martin McGuire, qui est revenu au travail déjà en décrivant le premier match du Canadien, match préparatoire perdu hier à Toronto.